Le récit de la détective. Le long adieu. Je compris que l'affaire n'allait pas être comme les autres dès l'instant où il entra dans mon bureau. Il était beau. Et je ne veux pas dire efféminé ou mignon à l'image des stars de la TVHD. Il était simplement beau. C'était un homme de petite taille, pas plus grand que moi, qui suis né et qui ai grandi sous les 1,3 jets de Lucius. Il était cependant bien proportionné selon les critères du RETS, athlétique et mince. Son visage exprimait tout entier une énergie et une volonté de faire. Sourcils bas, pommettes saillantes, nez compact, mâchoire forte et large bouche, traduisant à la fois un côté sensuel et une tendance à l'entêtement. Ses yeux noisettes étaient grands et il ne semblait pas avoir plus d'une trentaine d'années standard. Comprenez bien que je n'ai pas enregistré tous ces détails à l'instant où il est entré. Ma première pensée fut plutôt « Est-ce un client ?» Et ma deuxième « Merde, quel beau mec !»
H. Lamia ?
Ouais.
H. Brown Lamia, de l'agence Pangermique de recherche et filature.
Ouais. Il regarda autour de lui comme s'il n'y croyait pas vraiment. Je comprenais un peu ce qu'il devait penser. Mon bureau se trouve au 23e étage d'un vieux rucher industriel dans le quartier des Reliques à Gueuze sur l'Usus. J'ai trois grandes fenêtres qui plongent sur la tranchée d'entretien neuf, toujours plongée dans l'obscurité et toujours brumeuse à cause des écoulements abondants du filtre du rucher au-dessus. La vue donne principalement sur des quais de chargement automatique abandonnés et sur des poutrelles rouillées. Mais le loyer est bon marché, merde. Et n'importe comment, la plupart de mes clients préfèrent appeler au lieu de passer en personne.
Puis-je m'asseoir ?
Demanda-t-il, acceptant apparemment l'idée qu'une agence de détectives qui se respecte puisse opérer dans un contexte si sordide. Bien sûr, dis-je en lui désignant une chaise. Et à qui ai-je l'honneur ?
Johnny.
Il n'était pas du genre, me disais-je, à se faire appeler par son prénom par des inconnus. Quelque chose chez lui criait qu'il était bourré de fric. Ce n'étaient pas ses vêtements, plutôt sobres, de couleur noire et anthracite, bien qu'ils fussent de bonne qualité. Non, c'était plutôt l'impression qu'il donnait d'avoir de la classe. Peut-être son accent aussi. Je m'y connais assez dans ce domaine, c'est plutôt utile dans ma profession. Mais j'étais incapable de situer sa planète natale et encore moins la région d'où il venait. « Que puis-je faire pour vous, Johnny ? » demandai-je en lui présentant la bouteille de scotch que j'étais sur le point de ranger avant son arrivée. Il secoua négativement la tête. Il croyait peut-être que je lui suggérais de boire la bouteille. Merde, j'ai un peu plus de classe que ça quand même. J'avais des gobelets en carton à côté du distributeur d'eau glacée.
« H. Lamia ?»
me dit-il avec cet accent cultivé qui ne cessait de me turlupiner depuis le début.
« J'ai besoin de faire une enquête. »
« Je suis là pour ça. » Il hésita. Il était timide. Beaucoup de mes clients le sont au moment de m'expliquer ce qu'ils veulent. Rien d'étonnant à ça, vu que 95% des affaires que je traite concernent des divorces et des histoires conjugales. J'attendis patiemment qu'il me déballe son truc.
« Il s'agit d'une question assez délicate, »
commença-t-il. « Ouais. Écoutez, Johnny. » Presque toutes mes activités entrent dans cette catégorie. Je suis assermenté auprès de l'UNIRETS et tout ce qui se passe entre mes clients et moi tombe sous le coup de la loi sur la protection de la vie privée des individus. Tout est strictement confidentiel, y compris le fait que nous parlions ensemble en ce moment. Même si vous décidez de n'avoir pas recours à mes services. C'était essentiellement du baratin dans la mesure où les autorités pouvaient avoir accès à mes fichiers en un instant si elles le voulaient. Mais je sentais qu'il fallait mettre ce Gus à l'aise d'une manière ou d'une autre. Dieu, ce qu'il était beau! Fit-il en regardant de nouveau autour de lui, puis en se penchant en avant.
H. Lamia, j'ai besoin que vous fassiez une enquête sur un meurtre.
Il avait réussi à m'intéresser. J'avais les pieds sur mon bureau. Je les posais par terre et me penchais en avant en redressant mon fauteuil. Un meurtre? Vous en êtes bien sûr? Et les flics?
Ils ne sont pas concernés.
C'est impossible, lui dis-je avec le sentiment profondément déçu que j'avais affaire à un détraqué plutôt qu'à un riche client. C'est un crime de dissimuler un meurtre à la police. En réalité, ce que je pensais, c'était Le meurtrier, c'est toi, Johnny ?
Il sourit tout en secouant la tête.
Pas dans ce cas, dit-il.
Que voulez-vous dire ?
Ce que je veux dire, Ash Lamia, c'est qu'un meurtre a bien été commis, mais que la police locale ou hégémonienne n'en a pas connaissance, car cela ne fait pas partie de sa juridiction.
Impossible, répétai-je, tandis qu'au dehors, les étincelles d'un chalumeau de soudage industriel retombaient en cascade dans la tranchée parmi la bruine rouillée. Expliquez-vous.
Le meurtre dont je vous parle a été commis en dehors du Retz, en dehors du protectorat, dans un endroit où il n'y a pas d'autorité locale.
Cela aurait pu se tenir à la rigueur. Sauf que je ne voyais vraiment pas de quel genre d'endroit il voulait parler. Les mondes coloniaux et même les établissements des confins ont leurs flics. Peut-être à bord d'un vaisseau spatial.
Même pas. Un tel cas relevait de la juridiction de l'Agence interstellaire de transit.
Je vois, soupirai-je. Il y avait quelques semaines que j'étais sans boulot.
Donnez-moi tous les détails, lui dis-je.
Et cette conversation demeurera secrète, même si vous ne vous chargez pas de l'affaire.
Absolument.
Si vous vous en chargez, par contre, vous ne communiquerez vos résultats à personne d'autre que moi.
Bien entendu. Mon client potentiel hésita encore en se frottant le menton. Il avait des mains exquises.
Très bien,
finit-il par dire. Commencez par le commencement. Qui a été assassiné ? Il redressa la tête comme un écolier que l'on interroge. Son visage respirait la sincérité.
Moi, répondit-il.
Il me fallut 10 bonnes minutes pour lui tirer toute l'histoire. Quand il eut fini, je ne pensais plus qu'il était fou. C'était moi qui avais perdu l'esprit. Ou qui le perdrait si jamais j'acceptais de m'occuper de cette fichue affaire. Johnny, son vrai nom était un ensemble codé de chiffres, de lettres et de rangées de zéros plus longs que mon bras, était un cybride. J'avais déjà entendu parler des cybrides, comme tout le monde. J'avais même un jour accusé mon ex-mari d'en être un. Mais je ne m'attendais pas à en rencontrer un, ni à me retrouver assise en face de lui dans la même pièce, ni à le trouver si foutrement séduisant. Johnny était une intelligence artificielle. Sa conscience, son ego, appelez ça comme vous voudrez, flottait quelque part dans un infoplan de la méga-infosphère du technocentre. Comme tout le monde, à l'exception peut-être du président du Sénat et des éboueurs des IA, j'ignorais totalement où se trouvait le technocentre. Les IA avaient fait tranquillement sécession de l'autorité humaine plus de 3 siècles auparavant, mais c'était pour moi de l'histoire ancienne. Il continuait de servir l'hégémonie en tant qu'allié et conseiller de la Pangermie, en supervisant l'infosphère et en utilisant à l'occasion leur pouvoir de prédiction pour nous éviter des bourdes majeures ou des catastrophes naturelles. Le technocentre, pendant ce temps, poursuivait dans l'ombre ses activités mystérieuses et fondamentalement non humaines. Pour ma part, je n'avais rien à redire à tout ça. Habituellement, les IA font leurs affaires avec les humains et leurs machines uniquement par l'intermédiaire de l'infosphère. Ils peuvent créer des holos interactifs si le besoin s'en fait sentir. Je me souviens par exemple que lors du rattachement d'Alliance Maui, les ambassadeurs du technocentre présents à la signature du traité ressemblaient tous étrangement à l'ancien acteur holo Tyrone Bathwaite. Les cybrides sont quelque chose d'encore différent. Fabriqués à partir de matériaux génétiques humains, ils nous ressemblent beaucoup plus dans leur aspect physique et leur comportement que de simples androïdes. Et des accords très stricts entre l'hégémonie et le technocentre limitent sévèrement le nombre de cybrides en circulation. Je regardais mon Johnny de plus près. Du point de vue d'une IA, le corps splendide et la personnalité fascinante assis en face de moi ne devaient être qu'un prolongement parmi beaucoup d'autres, quelque chose de plus complexe, mais pas plus important que les milliers de terminaux, capteurs, manipulateurs, engins autonomes ou télécommandés qu'une IA devait utiliser au cours de sa journée de travail. La destruction d'un Johnny ne devait pas troubler cette IA davantage que, pour moi, la perte d'une rognure d'ongles. Quel gâchis, me disais-je. Un cybride, répétai-je à haute voix.
Oui, et tous mes papiers sont en règle. J'ai mon visa délivré par le RETS.
Parfait,
m'entendis-je murmurer.
Et quelqu'un a donc assassiné votre cybride, et vous voulez que j'enquête pour savoir qui ?
Pas exactement.
Le jeune homme assis en face de moi avait des boucles au burn qui, au même titre que son accent ou sa coupe de cheveux, m'échappaient momentanément. Son aspect avait quelque chose d'archaïque, bien sûr, mais j'étais certaine d'avoir vu tout cela quelque part.
« Ce n'est pas seulement le corps que vous voyez qui a été tué, » reprit-il. « Mon agresseur m'a assassiné. »«
Vous ? » ?»«
Moi. »«
Vous en tant que...
IA ?»«
Précisément. » Je ne saisissais pas très bien. Les IA ne peuvent pas mourir, pas à la connaissance des citoyens ordinaires du RETS en tout cas. « Je ne saisis pas très bien, lui dis-je. » Johnny hocha quelques instants la tête.
« Contrairement à la personnalité humaine qui peut être, de la vie générale, je pense, détruite par la mort, ma conscience d'IA ne peut être annihilée. Cependant, à la suite de l'agression dont je vous ai parlé, il y a eu, disons, une interruption. » Je possédais bien sûr ce que l'on pourrait appeler des sauvegardes de mes souvenirs personnalisés, etc. Mais il y a eu des pertes. Certaines données ont été détruites. C'est dans ce sens que mon agresseur a commis un meurtre.
Je vois, mentis-je. Je pris une longue inspiration avant de demander. Pourquoi n'êtes-vous pas allé exposer votre cas aux autorités IA, si elles existent, ou bien aux cyberflics de l'hégémonie ?
Pour des raisons tout à fait personnelles,
me dit le beau jeune homme dont j'essayais de me persuader qu'il était un cybride.
Il est très important et même indispensable que je ne m'adresse pas à ces autorités.
Je haussai un sourcil. Ce langage ressemblait davantage à celui de mes clients habituels.
Je vous assure, reprit-il, qu'il n'y a absolument rien d'illégal dans cette affaire. Rien qui soit contraire à la morale non plus. Il s'agit seulement de faits embarrassants pour moi, à un niveau dont je ne peux pas vous parler.
Je croisais lentement les bras. Écoutez, Johnny, votre histoire est déjà assez tarabiscotée comme ça. Comprenez-moi bien, c'est vous qui dites que vous êtes un cybride. Vous pourriez aussi bien être le roi des arnaqueurs, à ce que j'en sais. Il parut étonné.
Je n'y avais pas pensé. Que faut-il que je fasse pour vous prouver que je suis bien ce que je prétends être ?
Je n'hésitais pas une seule seconde. Virez 1 000 000 de marks sur mon compte en banque chez Transrets, lui dis-je. Il sourit. Au même instant, l'holophone sonna et l'image d'un homme accablé avec le logo de Transrets flottant derrière lui me dit
« Excusez-moi, H. Lamia, mais nous voudrions savoir si, avec un dépôt de cette importance, vous seriez intéressé par nos plans d'épargne à long terme ou par un placement monétaire à revenu minimum garanti. »
Plus tard. Le directeur de la banque me salua d'une courbette et disparut. « Il pourrait s'agir d'une simulation, » déclarai-je. Johnny eut un sourire adorable.
« La démonstration serait quand même concluante, non ?»«
Pas obligatoirement. » Il haussa les épaules.
« En supposant que je sois celui que je prétends être, accepteriez-vous de vous occuper de cette affaire ?»«
D'accord, » soupirai-je. « Une petite précision, cependant. » Mes honoraires ne s'élèvent pas à 1 000 000 de marks. Ils sont de 500 marks par jour, plus les frais.
Le cybride hocha la tête. Cela signifie que vous acceptez ?
Je me levai, mis mon chapeau et pris un vieux manteau accroché à une patère près de la fenêtre. Puis je me baissai pour prendre dans un tiroir du bureau le vieux pistolet de mon père que je glissais dans ma poche. Allons-y, déclarai-je.
D'accord, me dit Johnny. « Mais où ?»«
Je veux voir les lieux où vous avez été assassiné. » On dit toujours que les gens comme moi qui sont nés sur l'Usus détestent quitter leur ruche et souffrent d'agoraphobie dès qu'ils n'ont pas au moins le toit d'une galerie marchande sur la tête. La vérité est que la grande majorité des affaires dont je m'occupe vient de ou aboutit à des mondes extérieurs. Par exemple, suivre la piste de Pecno dont le premier réflexe est d'utiliser le système d'Istrans et de changer d'identité pour mieux se noyer dans la foule, ou retrouver des conjoints volages qui croient qu'en organisant leur rencontre sur une autre planète, ils ne pourront jamais être découverts,
ou ramener des adolescents en fuite à leurs parents, ou quelquefois l'inverse. Je fus tout de même surprise, au point d'hésiter une seconde ou deux, lorsque nous sortîmes du poste d'Istrance reliant Gueuse au confluent pour nous retrouver sur un plateau rocheux et aride et désert qui semblait s'étendre à l'infini. Mis à part le cadre d'airain du portail d'Istrance derrière nous, il n'y avait pas la moindre trace de civilisation aussi loin que portait le regard. L'air avait une odeur d'œuf pourri. Le ciel était un chaudron marron-jaune de nuages maladifs. Le sol autour de nous était gris et pelé et ne portait aucune trace de vie, pas le moindre lichen. Je n'avais aucune idée véritable de la distance à laquelle se trouvait l'horizon. Mais j'avais l'impression d'être en altitude et de voir très très loin. Il n'y avait ni arbres, ni buissons, ni vie animale entre cet horizon et moi. « Où sommes-nous donc ?» demandai-je. J'étais certaine jusqu'à ce moment-là d'avoir entendu parler de tous les mondes du Retz.
« Madieu !» fit Johnny.
« Jamais entendu parler. » Je mis la main dans la poche où se trouvait le vieil automatique de papa, avec sa crosse incrustée de nacre.
« Elle ne fait pas encore partie du Retz, »
me dit le cybride.
« Officiellement, c'est une colonie de Parvati, mais elle ne se trouve qu'à quelques minutes de lumière de la base de la Force sur cette planète, et la liaison d'Istrance a été établie avant que Madieu ne soit admise au sein du protectorat. »
Je contemplais de nouveau la désolation qui s'étendait autour de moi. La puanteur de l'anhydride sulfureux me rendait malade, et j'avais peur de salir mon manteau. « Il y a des zones habitées ?» demandai-je.
« Pas par ici. » Il y a quelques villes sur l'autre hémisphère.
Quel est l'endroit habité le plus proche?
Nanda Devi, 300 habitants. Plus de 2000 km au sud.
Je ne comprends pas l'intérêt de cette porte distance.
Terrain minier,
me dit Johnny avec un large geste qui englobait tout le plateau.
Métaux lourds. Le consortium a autorisé l'installation de plus de 100 portes de ce genre sur cet hémisphère pour faciliter l'exploitation qui doit commencer bientôt.
D'accord. Pour un assassinat, ce n'est pas mal comme site. Mais qu'est-ce que vous fichiez là?
Je l'ignore. Cela fait partie des souvenirs que j'ai perdus.
Avec qui étiez-vous?
Je l'ignore également.
Que savez-vous alors? Le jeune homme fourra ses jolies mains dans ses poches.
Celui ou je ne sais quoi qui m'a attaqué a utilisé une arme connue dans le centre sous le nom de virus du sida 2.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Le sida 2 était une maladie épidémique pré-égyrienne qui s'attaquait au système immunitaire humain. Ce virus agit de la même manière sur les IA. En moins d'une seconde, il s'infiltre à travers les systèmes de sécurité et lance les programmes phagocytaires mortels contre son hôte, c'est-à-dire contre l'IA elle-même. C'est-à-dire moi.
Vous n'auriez donc pas pu attraper ce virus de manière naturelle? Il sourit.
Impossible. Cela revient à demander à la victime d'une arme à feu si ce n'est pas elle qui s'est jetée sur les balles.
Je haussai les épaules. Écoutez, si c'est un expert en réseau de données ou en IA qu'il vous faut, vous vous êtes trompé de nana. À part le fait d'utiliser l'infosphère comme 20 milliards d'autres gogos, je n'entrave que pouic à votre monde des ombres, moi. J'avais utilisé cette dernière expression tombée en désuétude, exprès pour voir s'il aurait une réaction.
Je sais.
Me répondit Johnny, toujours sur le même ton.
« Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai engagé. »«
Pourquoi alors ?»«
Pour découvrir l'identité de mon meurtrier et ses motivations. »«
Très bien. Pour commencer, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est ici qu'on vous a tué ?»«
C'est ici que j'ai retrouvé le contrôle de mon cybride lorsque j'ai été reconstitué. »
Vous voulez dire que votre cybride a été mis hors circuit pendant que le virus vous détruisait?
Oui.
Et combien de temps cela a-t-il duré?
Ma mort? Un peu moins d'une minute, le temps que ma personnalité de secours puisse être activée.
Je me mis à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher.
Qu'est-ce qui vous amuse tant, Ashlamia?
Votre conception de la mort! Ses yeux noisettes prirent un air peiné.
C'est peut-être drôle de votre point de vue, mais vous ne pouvez pas savoir ce que représente une minute de déconnexion pour un élément du technocentre. Ce sont des siècles de temps et d'informations qui se perdent, des millénaires de non-communication.
Ouais, grognai-je encore capable de retenir mes larmes sans trop me forcer. Et qu'est-ce que votre corps, votre cybride, a fait pendant que vous changiez de bande ou je ne sais quoi?
Je suppose qu'il est resté dans le coma.
Il n'a aucune autonomie de fonctionnement.
Si, mais pas en cas d'arrêt général du système.
Bon. Où avez-vous repris connaissance?
Je vous demande pardon.
Où se trouvait le cybride quand vous l'avez réactivé? Il hocha la tête pour montrer qu'il avait compris. Puis il tendit la main vers un gros bloc qui se trouvait à moins de 5 mètres de la porte d'Istrance.
Là-bas.
De ce côté-ci ou de l'autre?
De l'autre.
J'allais examiner l'endroit. Pas de traces de sang. Pas le moindre écrit. Pas d'arme du crime oubliée. Pas même une empreinte ni le moindre indice attestant que le corps de Johnny était resté là une éternité ou une minute. Une équipe médico-légale de la police aurait peut-être trouvé là des tas d'indices microscopiques ou biotiques, mais je n'y voyais rien d'autre que de la caillasse. « Si vous avez réellement perdu la mémoire, lui dis-je, comment pouvez-vous savoir que vous êtes venu ici avec quelqu'un d'autre ?»«
J'ai interrogé la mémoire du système d'Istrance. »
Vous vous êtes peut-être donné la peine de vérifier l'identité du porteur de la carte universelle?
Nous avons utilisé une seule carte, la mienne.
Une seule autre personne?
Oui.
Je hochai lentement la tête. Les archives d'Istrance auraient suffi à résoudre toutes les énigmes policières intermonde s'il s'était agi de vraies téléportations. Elles auraient permis de reconstituer le sujet de la première à la dernière molécule. Mais le d'Istrance, c'est autre chose. Essentiellement, d'après ce que j'ai compris, il s'agit de percer un trou dans la texture de l'espace-temps au moyen d'une singularité de phase. Si le criminel d'Istrance n'utilise pas sa carte personnelle, les seules données disponibles après son passage sont le point d'origine et la destination. « D'où veniez-vous » demandai-je.
« De Tau Ceti Central. »
« Vous avez le code ?»«
Naturellement. »
« Allons-y avant de continuer cette conversation. » Cet endroit pue la peau du diable. TC Carré, comme on surnomme Tau Ceti Central depuis des temps immémoriaux, est sans conteste le monde le plus peuplé de tout le Retz. Outre sa population normale de 5 milliards d'habitants qui se disputent un espace continental représentant moins de la moitié de celui de l'ancienne Terre, il dispose d'un anneau écologique orbital qui abrite un demi-milliard d'individus supplémentaires. Non seulement TC Carré est la capitale de l'hégémonie et le siège du Sénat, mais c'est aussi le centre incontesté des affaires de tout le Retz. Le code que Johnny avait trouvé nous conduisit dans un terminex de 600 portes au cœur de l'une des plus hautes spires de la Nouvelle-Londres, dans l'un des plus vieux quartiers de la ville. « Bon, si on allait boire quelque chose, » demandai-je. Le choix ne manquait pas parmi les bars qui entouraient le terminex. Je jetai mon dévolu sur un endroit qui me paraissait relativement calme. Le décor imitait celui d'une taverne de marins. Il y faisait frais et sombre, et il y avait beaucoup de cuivre et de boiseries factices. Je commandai une bière. Je ne bois jamais rien de plus fort que ça, et je n'utilise jamais le flashback lorsque je suis sur une affaire. Parfois, j'ai l'impression que c'est ce besoin d'autodiscipline qui me maintient dans la profession. Johnny commanda également une bière, une brude allemande importée du Vecteur Renaissance. L'idée me traversa qu'il aurait été intéressant de savoir quelle vie un cybride comme lui pouvait bien avoir. « Qu'avez-vous découvert d'autre avant de venir me voir ?» demandai-je. Il écarta les mains.
« Rien du tout. »«
Merde !» déclarai-je gravement. « Vous rigolez ? Avec tous les moyens dont les IA disposent ?» Vous allez me dire que vous êtes incapable de reconstituer les faits et gestes de votre cybride durant les quelques jours qui ont précédé l'accident ?
Oui,
dit-il.
Ou plutôt,
reprit-il après avoir bu une gorgée de bière, je pourrais le faire, mais j'ai d'importantes raisons de m'abstenir.
Je ne tiens pas à ce que les autres IA me surprennent en train d'enquêter.
Vous soupçonnez l'une d'elles. Au lieu de me répondre directement, Johnny me tendit une pelure où figurait un relevé de ses achats par carte universelle.
« Le trou consécutif à mon assassinat représente 5 jours standard, » me dit-il. « Voici les dépenses effectuées pendant cette période. »
« Je croyais vous avoir entendu dire que vous n'étiez resté déconnecté qu'une minute. » Johnny se gratta la joue d'un doigt.
Je m'estime heureux de n'avoir perdu que 5 jours de données.
Je fis signe au serveur humain de m'apporter une autre bière. Écoutez, Johnny, ou qui que vous soyez, je ne pourrai jamais attaquer correctement cette affaire si vous ne m'en dites pas un peu plus sur vous et sur les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Qu'est-ce qui pourrait inciter quelqu'un à vous tuer s'il sait que vous pourrez vous reconstituer ou je ne sais pas trop quoi ?
Je vois 2 mobiles possibles, me dit Johnny en levant sa bière.
D'accord. Le premier, c'est de créer le trou de mémoire qu'ils ont réussi à créer. Cela signifie, j'imagine, que ce qu'ils veulent vous faire oublier vous trottait déjà dans la tête depuis une semaine ou deux. Et quel est le deuxième ?
Me faire passer un message, mais j'ignore lequel et de qui.
Vous ne savez pas qui aurait intérêt à vous supprimer ?
Non.
Pas la moindre idée ?
Pas la moindre.
La plupart des assassinats sont des actes de colère irréfléchis commis par quelqu'un que la victime connaissait bien. Un membre de la famille, un ami ou un partenaire sexuel. La majorité des crimes prémédités ont pour auteur un proche de la victime. Johnny demeurait silencieux. Il y avait quelque chose dans son visage que je trouvais incroyablement séduisant. Une sorte de force masculine associée à une sensibilité féminine. Peut-être était-ce son regard. « Est-ce que les IA ont de la famille ? » demandai-je. « Se querellent-ils ? Ont-ils des brouilles, des scènes de ménage ?» Il sourit légèrement.
« Non. Nous avons une organisation quasi familiale, mais qui n'implique pas du tout de liens émotionnels ou protecteurs comme ceux des familles humaines. Les familles des IA sont essentiellement des classements par groupe qui permettent éventuellement de codifier certains processus de pensée ou d'action. »
Vous ne pensez donc pas que c'est une autre IA qui vous a attaqué ?
Ce n'est pas impossible, murmura Johnny en faisant tourner lentement son verre dans ses mains. Mais je ne vois pas pourquoi, dans ce cas, on m'aurait attaqué par l'intermédiaire de mon cybride.
Plus facile ?
Possible. Mais cela aurait compliqué inutilement les choses pour mon agresseur. Un attentat dans l'infoplan aurait été infiniment plus préjudiciable pour moi. Je ne vois pas non plus de mobile pour une IA. Tout cela n'a guère de sens. Je ne représente un danger pour personne.
Pourquoi avez-vous un cybride, Johnny ? Si je comprenais votre rôle dans tout ça, je pourrais peut-être trouver un mobile. Il prit un bretzel et joua quelques instants avec.
J'ai un cybride. Je suis un cybride, en quelque sorte, parce que mon rôle est d'observer les humains et de réagir devant eux. Si vous voulez, c'est parce que j'ai été humain moi-même autrefois.
Je secouai la tête, les sourcils froncés. Depuis le début, rien de tout ce qu'il m'avait dit n'avait de sens.
Vous avez peut-être entendu parler des programmes de récupération de la personnalité ?
Me demanda-t-il. Non.
On en a beaucoup parlé il y a environ une année standard lorsque les cimes de la force ont recréé la personnalité du général Horace Glennon Haight pour voir ce qui faisait de lui un si brillant militaire. C'était dans tous les médias.
Ouais.
Eh bien, je suis, ou plutôt j'étais, l'aboutissement d'un projet du même genre, mais plus ancien et beaucoup plus complexe. Ma personnalité de base était calquée sur celle d'un vieux poète pré-égyrien de l'ancienne terre, né vers la fin du XVIIIe siècle selon l'ancien calendrier.
Comment diable peuvent-ils reconstituer une personnalité perdue dans le fin fond du temps ?
Par ses écrits. Ses poèmes, sa correspondance, ses journaux intimes, et aussi les biographies, les critiques, les témoignages de ceux qui l'ont connu. Mais surtout par sa poésie. Les cimes recréent son environnement, incorporent les facteurs connus, et extrapolent vers l'amont à partir de ses œuvres. Voilà, c'est ce qu'on appelle la personnalité de base. Elle est un peu rudimentaire au début, mais la mienne était déjà pas mal dégrossie lorsque j'ai été créée. Notre première tentative portait sur un poète du XXe siècle nommé Ezra Pound. Sa personnalité recréée était têtue jusqu'à l'absurdité la plus totale, pleine de préjugés à un point insensé, et techniquement démente. Il nous a fallu une année entière de tâtonnement pour nous apercevoir qu'elle correspondait bien à la réalité historique. Le personnage était réellement dingue. Génial, mais dingue.
Bon, ils ont bâti votre personnalité autour de celle d'un poète mort. Et ensuite ?
Cela représente le gabarit à partir duquel l'IA est constituée. Le cybride me permet de jouer mon rôle dans la communauté de l'infoplan. en tant que poète ?
Disons plutôt en tant que poème, fit Johnny en souriant de nouveau.
Poème ?
Ou œuvre d'art permanente, mais pas au sens humain du terme. Une sorte de puzzle, si vous voulez. Une énigme à géométrie variable, capable d'offrir de temps à autre une ouverture inhabituelle sur des analyses beaucoup plus sérieuses.
Je ne vous suis vraiment pas.
Cela n'a pas beaucoup d'importance, je suppose. Je doute fort que ma finalité ait été la raison de cette agression.
Quelle en a été la raison, à votre avis ?
Je n'en ai pas la moindre idée.
Le cercle vicieux s'était refermé.
Très bien, soupirai-je.
Essayons de découvrir ce que vous faisiez et avec qui vous étiez pendant les 5 jours manquants. À part la pelure que vous m'avez donnée, vous ne voyez vraiment pas d'autres indices qui puissent me fournir une piste ?
Il secoua la tête. Je suppose que vous comprenez pourquoi il est si important pour moi d'identifier mon agresseur et de connaître ses mobiles,
me dit-il.
Bien sûr.
Il pourrait avoir envie de recommencer.
Précisément.
Comment vous contacter en cas de nécessité ? Il me tendit une plaque de communication. La ligne est sûre ? Demandai-je.
Absolument.
Très bien. Je vous ferai signe quand j'aurai du nouveau, éventuellement. Nous sortîmes du bar pour reprendre le chemin du Terminex. Il s'éloignait de son côté lorsque je me mis soudain à courir pour le rattraper.
Johnny,
lui dis-je en lui saisissant le bras, vous ne m'avez pas dit le nom du poète de l'ancienne terre qu'ils ont ressuscité ?
Reconstitué.
D'accord, celui sur lequel votre personnalité d'IA est calquée. Le séduisant hybride parut hésiter. Je remarquai la longueur inhabituelle de ses cils.
Vous croyez que c'est important ?
Demanda-t-il. Qui peut savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas ? Il hocha doucement la tête.
Keats, né en 1795, mort en 1821 de la tuberculose. John Keats.
Suivre la trace de quelqu'un à travers une série de changements d'istrance est une tâche quasiment impossible à mener à terme, particulièrement si vous voulez le faire discrètement. Les flics du raid sont les moyens de le faire, à condition de mettre sur le job 50 hommes munis d'un équipement coûteux et sophistiqué, et bénéficiant qui plus est de la coopération de l'agence de transit. En solo, l'entreprise relève de la pure utopie. Il était cependant vital pour moi de savoir où se rendait mon nouveau client. Johnny ne se retourna même pas lorsqu'il traversa la place du Terminex. Je me dissimulais derrière un kiosque voisin et l'observais sur mon imageur de poche, tandis qu'il composait une série de codes sur un disque manuel, insérait sa carte et pénétrait dans le rectangle lumineux. L'utilisation d'un disque manuel signifiait probablement qu'il visait un accès public, dans la mesure où les codes d'istrance privée sont généralement gravés sur des plaques non accessibles.
Bravo.
J'avais réduit la liste des destinations possibles à la bagatelle de 2 millions de portes sur 150 planètes du RETS et environ moitié autant de lunes. D'une main, je fis sortir complètement la doublure rouge de mon manteau, tout en repassant l'enregistrement de l'imageur dont l'oculaire spécial me permettait d'agrandir la séquence du disque. Je tirai de ma poche une casquette rouge assortie à la couleur de mon nouveau trois quarts et rabattis la visière sur mon front. À pas rapide, je traversai la place et interrogeai mon persoc sur le code de transfert à 9 chiffres que j'avais lu sur l'imageur. Je savais déjà que les 3 premiers chiffres correspondaient au monde de Tsingtao Sichuang Pana. Je connaissais par cœur tous les préfixes planétaires. Et j'appris un instant plus tard que le code correspondait à une porte située dans un quartier résidentiel de la cité de Wanxian, datant de la première vague de l'expansion. Je gagnai sans perdre de temps la première cabine disponible et m'y transportai. Je ressortis sur une petite place de Terminex au dallage poli par l'usage. De vieilles échoppes orientales, accolées les unes aux autres, couvraient de leurs toits en pagode des ruelles obscures. La place était pleine de monde. Les gens se tenaient oisifs devant les entrées des maisons. La plupart étaient manifestement des descendants des exilés de la longue course qui avait colonisé THP. Beaucoup, cependant, venaient des mondes extérieurs. L'atmosphère était saturée d'odeurs de végétation exotique, d'eau usée et de riz frit. « Merde !» murmurai-je. Il y avait 3 autres portes d'istrance juste à côté de la mienne.
Johnny avait très bien pu en prendre une aussitôt après son arrivée. Au lieu de retourner sur l'Usus, je passais quelques minutes à explorer la place et les venelles. Entre-temps, les pilules à la mélanine que j'avais avalées avaient fait leur effet, et j'étais une jeune femme noire, ou bien un homme, c'était assez difficile à dire, avec ma veste ballon rouge dernier cri et ma visière polarisée, qui déambulait tranquillement en prenant des instantanés avec son imageur de touriste. Le cube traceur que j'avais fait fondre dans la deuxième bière allemande de Johnny avait eu largement le temps de faire son effet. Les microspores UV positifs devaient être maintenant en suspension dans l'air. Je pouvais presque suivre à l'odeur ses expirations. Je découvris même la marque jaune vif d'une de ses mains sur un mur noir, jaune vif uniquement à travers ma visière spéciale, bien sûr, et totalement invisible en dehors du spectre UV. Puis je suivis la piste des taches plus ou moins nettes faites par ses vêtements imprégnés chaque fois qu'ils avaient frôlé un mur ou un étal. Johnny était en train de déjeuner dans un restaurant cantonais à moins de deux pâtés de maison de la place du Terminex. Les odeurs de nourriture étaient alléchantes, mais je résistais à l'envie d'y entrer. Je me promenais dans les allées du marché, m'intéressant aux bouquinistes, pendant près d'une heure, avant qu'il se décide à ressortir et retourne sur la place se distransporter de nouveau. Cette fois-ci, il utilisa une plaque codée pour accéder probablement à une porte privée, sans doute celle d'une demeure particulière. Je pris un double risque en le suivant au moyen de ma plaque Remora. D'une part parce qu'elle est totalement illégale et me coûtera ma licence si je me fais prendre un jour avec, ce qui est somme toute assez peu probable si je continue d'utiliser la polyplaque du père Sylvard, d'un coup éhonté, mais efficace et esthétiquement parfaite. D'autre part parce que je pouvais très bien me retrouver directement dans la chambre à coucher de Johnny, situation pour le moins embarrassante. Ce ne fut pas le cas. Avant même de lire le nom de la rue, j'avais reconnu le petit supplément familier de gravité, la lumière pâle aux reflets bronzés et l'odeur de mazout et d'ozone de l'atmosphère. J'étais revenu chez moi sur l'Usus. Johnny s'était distransporté dans l'une des tours résidentielles surveillées du rucher de Bergson. C'était peut-être pour cela qu'il avait jeté son dévolu sur mon agence. Nous étions presque voisins. Moins de 600 kilomètres nous séparaient. Mon cybride n'était nulle part en vue. Je m'efforçais de marcher d'un pas décidé afin de ne pas alerter les caméras de surveillance programmées pour réagir devant une démarche suspecte. Il n'y avait pas de liste des résidents, pas de nom ni même de numéro sur les portes des appartements, pas de répertoire accessible au moyen d'un persoc. Selon mes estimations, le rucher de Bergson Est devait comprendre au moins 20 000 logements. La trace laissée par les microspores était de plus en plus faible, mais je n'eus à explorer que deux des corridors radio avant de retrouver la piste. Johnny habitait une aile éloignée au sol vitrifié avec vue sur un lac de méthane. Sa cellule palmaire portait une empreinte qui brillait encore faiblement. Je me servis de mon outillage de monte en l'air pour prendre un cliché de la configuration, puis je regagnai mon bureau. Au bout du compte, j'avais réussi brillamment à le surprendre en train de déjeuner, puis de rentrer dormir chez lui. Je décidai d'arrêter les frais pour la journée. Bébé Sörbringer était mon expert en IA. Il travaillait au bureau des archives et de la statistique du ministère de la Régulation de l'Hégémonie, où il passait le plus clair de son temps vautré sur une couche à gravité zéro, le crâne hérissé d'une demi-douzaine de microfils qui lui servaient à communier avec d'autres bureaucrates de l'infoplan. Nous nous connaissions depuis la fac, où il était déjà mordu d'informatique, cyberpunk de la plus pure espèce et bidouilleur de la 20e génération, habitué à la dérivation corticale depuis l'âge de 12 années standard. De son vrai nom Ernest, il avait gagné le surnom de bébé en sortant avec l'une de mes amies du nom de Shaila Toyo. Elle l'avait vu nu à leur deuxième rencontre, et cela avait déclenché chez elle un fou rire d'une bonne demi-heure. Ernest mesurait, et mesure toujours, près de 2 mètres de haut pour un poids inférieur à 50 kilos. Shaila avait raconté partout qu'il avait un petit cul comme 2 boules de billard, et le surnom bébé lui était resté accroché, comme tout ce qui part d'un mauvais sentiment. J'allais le trouver dans l'un des monolithes ouvriers sans fenêtre de TC carré. Pour bébé, c'est pareil, pas question de tour traversant les nuages.
« Tu t'intéresses sur le tard aux sciences informatiques, Brown ?»
me demanda-t-il.
« Je ne crois pas qu'il y ait encore des débouchés pour les gens de ton âge. »«
Je veux seulement quelques renseignements sur les IA, bébé.
»« L'un des sujets les plus complexes de tout l'univers exploré, » soupira-t-il,
en regardant à regret sa dérivation neurale déconnectée et ses électrodes métacorticales. Les cyberpunks ne redescendent jamais. Les fonctionnaires, cependant, arrêtent pour déjeuner, et comme la plupart des cyberpunks, Bébé n'était jamais à l'aise quand il s'agissait d'échanger des informations autrement que sur le réseau de données.
« Que veux-tu savoir, au juste ?»
me demanda-t-il. « Pourquoi les IA nous ont-ils laissé tomber ?» Il fallait bien commencer quelque part. Bébé décrivit une arabesque complexe avec ses mains.
Ils disaient qu'ils avaient des projets incompatibles avec leur immersion totale dans les affaires de l'hégémonie, c'est-à-dire les affaires humaines. En réalité, personne ne connaît leur motivation véritable.
Mais ils sont toujours là pour tout superviser ?
Évidemment. Le système ne pourrait pas fonctionner sans eux, Brown. Tu le sais très bien. Même la Pangermie est tributaire de leur gestion en temps réel de la trame de Schwarzschild et...
D'accord, l'interrompis-je avant qu'il ne me fasse un discours en cyberjargon. Mais que sais-tu de leur autre projet ?
Personne n'est au courant. D'après Branner et Swayze de chez Art Intel, les IA s'efforceraient de faire évoluer la conscience à l'échelle galactique. Nous savons qu'ils ont lancé leur propre sonde dans les confins, bien plus loin que...
Et les cybrides ?
Les cybrides ? Qu'est-ce qui te fait penser aux cybrides ?
Il s'était redressé et avait pris un air intéressé pour la première fois depuis le début de notre entretien. Pourquoi trouves-tu étonnant que je t'en parle, bébé ? Il frotta distraitement son orifice de connexion de dérivation.
D'abord, presque tout le monde a oublié leur existence. Il y a 2 siècles, on n'entendait que des discours alarmistes, on disait que les hommes artificiels allaient prendre le pouvoir et tout le reste. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Par contre, je suis tombé hier sur un avis d'anomalie indiquant que les cybrides sont en train de disparaître.
De disparaître ? C'était moi, cette fois-ci, qui venait de me redresser.
On les retire progressivement de la circulation, tu comprends ? Jusqu'ici, les IA possédaient 1 millier de cybrides autorisés dans le RETS. La moitié environ était basée ici, à TC carré. Le dernier recensement, qui date de 8 jours à peine, indique que les 2 tiers ont été rappelés ces dernières semaines.
Que se passe-t-il quand une IA rappelle son cybride ?
Je n'en sais rien. Je suppose qu'il est détruit. Mais les IA détestent le gaspillage. Sans doute les matériaux génétiques sont-ils recyclés d'une manière ou d'une autre.
Et pour quelle raison crois-tu qu'ils soient recyclés massivement ?
Qui peut savoir, Brown ? Nous n'avons même pas idée de ce à quoi s'occupent les IA la plupart du temps.
Est-ce que les spécialistes les considèrent, je veux parler des IA, comme une menace potentielle ?
Tu rigoles ? Il y a 600 ans, peut-être. Il est vrai que leur sécession, il y a 2 siècles, nous a rendus soupçonneux. Mais s'ils avaient voulu nuire à l'humanité, il y a longtemps qu'ils auraient eu l'occasion de le faire. Se demander s'ils vont se retourner un jour contre nous est aussi peu réaliste que de s'inquiéter d'une révolte des animaux de basse-cour.
Sauf que les IA sont plus malins que nous.
Oui, bien sûr, il y a cet aspect-là.
Est-ce que tu as entendu parler des programmes de récupération de la personnalité ?
Comme le projet Glen and Hyde ? Ouais, bien sûr, comme tout le monde. J'ai même travaillé sur l'un de ces programmes il y a quelques années à l'université de Reichs. Mais cela appartient au passé. Personne ne s'y intéresse plus aujourd'hui.
Et pour quelle raison ?
Bon, tu connais vraiment rien à rien, toi. Les programmes de récupération de la personnalité ont tous été des fiascos retentissants. Même avec les meilleurs sims, et ils avaient la coopération du RTH-ECMO de la Force. Il est impossible de tenir compte de toutes les variables de manière satisfaisante. Le gabarit personnel devient conscient. Je ne veux pas dire conscient de sa propre existence, comme toi ou moi, mais conscient d'être une personnalité artificiellement consciente, et cela conduit à des boucles étranges rédhibitoires et à des labyrinthes non harmoniques qui se perdent dans un espace eschérien.
Tu ne pourrais pas traduire ? Bébé soupira en jetant un coup d'œil au bandeau horaire bleu et blanc du mur opposé. Son heure de déjeuner obligatoire arrivait à sa fin. Il pourrait bientôt rejoindre le monde réel.
Ah, cela veut dire,
expliqua-t-il,
que la personnalité récupérée s'effondre, perd les pédales, devient parano, flippe à mort.
Tout ça en même temps ?
En même temps.
Mais les IA continuent de s'intéresser à cette technique ?
Bof, qui peut savoir ? À ma connaissance, ils n'ont jamais mené aucun de ces projets à terme. La plupart étaient des travaux universitaires dirigés par des humains et qui se sont soldés par des ratages. Des universitaires poussiéreux essayant de faire revivre avec des budgets monstrueux d'autres universitaires poussiéreux.
J'eus un sourire forcé. Dans 3 minutes, il allait pouvoir se rebrancher. Est-ce que toutes les personnalités récupérées ont reçu des cybrides annexes ? Demandai-je.
Quelle idée ! Ça ne s'est jamais fait ! Ça n'aurait pas marché.
Pourquoi ?
Ça n'aurait fait que bousiller la Steam Sim, sans compter qu'il faudrait disposer de clones parfaits et d'un environnement interactif précis jusque dans ses moindres détails. Vois-tu, ma grosse, avec ses personnalités reconstituées, Il fallait recréer tout un univers pour pouvoir glisser quelques questions par l'intermédiaire de rêves ou de scénarios interactifs. Et de là à extraire une personnalité de sa réalité sim pour la transporter dans le temps ralenti.
C'était le terme que les cyberpunks employaient depuis une éternité pour désigner, pardonnez-moi l'expression, le monde réel.
Ça serait la rente dingo encore plus vite,
acheva-t-il. Je secouai plusieurs fois la tête. Bon ben... Merci, bébé. Je me dirigeais vers la porte. Encore 30 secondes et mon vieux copain de fac pourrait s'échapper du temps ralenti pour rejoindre son monde réel. « Bébé, lui dis-je quand même en me ravisant, tu n'aurais pas entendu parler d'une personnalité reconstituée à partir d'un ancien poète de la Terre nommé John Keats ?»«
Keats ? Bien sûr. On en parlait beaucoup dans le programme l'année de mon diplôme. C'est Martin Carolus qui a conduit cette expérience à la Nouvelle-Cambridge il y a une cinquantaine d'années de ça. »
Et ça s'est terminé comment ?
Comme d'habitude, la perso a craqué. Mais avant de se perdre dans les boucles étranges, elle est morte en cime, d'une maladie ancienne.
Bébé regarda la montre, sourit et prit sa dérivation. Avant de l'enficher dans son orifice crânien, il se tourna vers moi avec un sourire déjà béat.
« Je me souviens, »
dit-il,
« c'était la tuberculose. »
Si notre société devait un jour opter pour une dictature à la George Orwell, le meilleur instrument d'oppression serait sans doute le sillage laissé par la carte bancaire. Dans une économie sans espèces, avec un marché noir de troc réduit à l'état de curiosité historique, les activités d'un individu pourraient être pistées en temps réel par la simple étude du sillage monétaire laissé par sa carte universelle. Il y avait des lois très strictes sur la protection des libertés individuelles, mais les lois ont la mauvaise habitude de s'effacer ou de se faire abroger chaque fois que la pression sociale se transforme en poussée totalitaire. Le sillage monétaire concernant les 5 jours qui avaient précédé l'assassinat de Johnny indiqua qu'il s'agissait d'un homme modéré dans ses habitudes et dans son train de vie. Avant de me lancer sur les pistes ouvertes par la pelure qu'il m'avait donnée, j'avais déjà vérifié cela par moi-même en le filant discrètement pendant 2 jours où il ne s'était rien passé de notable. Il vivait seul dans le rucher de Bergson Est et une vérification de principe m'apprit qu'il n'avait pas changé d'adresse depuis 7 mois locaux, soit un peu moins de 5 mois standard. Le matin, il déjeunait dans un bar du voisinage, puis se distransportait sur le vecteur Renaissance où il travaillait 5 ou 6 heures d'affilée dans une bibliothèque. Renseignement pris, il semble qu'il rassemblait des informations à partir de documents écrits appartenant aux archives. Il prenait ensuite un repas léger au comptoir d'un marchand ambulant, puis retournait travailler 1 heure ou 2. Pour terminer sa journée, il se distransportait dans son appartement de Lusus ou dans l'un de ses restaurants favoris sur un autre monde. Il rentrait rarement après 22 heures. Il utilisait le distrans un peu plus que la moyenne de ses concitoyens de Lusus, mais son emploi du temps n'était pas beaucoup plus mouvementé. Les pelures confirmaient qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire la semaine où il avait été assassiné, à part quelques emplettes. Une paire de chaussures un jour, 2 l'épicerie le lendemain, et une visite dans un bar de Renaissance 5 le jour du meurtre. Je le retrouvai à l'heure du dîner dans un petit restaurant de la rue du Dragon Rouge, près de la porte d'Istrance de Tsingtao Sichuang Pana. Les plats étaient très épicés, à vous emporter le palais, mais excellents.
« Comment ça se passe ?»
me demanda-t-il. « Au poil, j'ai 1000 marks de plus que le jour où je vous ai connu à mon compte en banque, et j'ai découvert un fameux restaurant cantonais. »
« Ravi de voir que mon argent sert à quelque chose de noble. »«
À propos de votre argent, d'où vous vient-il ? Ce n'est pas en fréquentant une petite bibliothèque du vecteur Renaissance que vous devez vous remplir les poches. »
Il haussa un sourcil. « J'ai fait un modeste héritage. »«
Pas trop modeste, j'espère. »« J'aimerais bien continuer d'être payé. »«
Cela suffira amplement à nos besoins, Ashlamia. »« Qu'avez-vous découvert d'intéressant ?»
Je haussai les épaules. « Dites-moi ce que vous faites à la bibliothèque. »
« Je ne vois pas le rapport. »
« Il y en a peut-être un. » Il me jeta un drôle de regard. Je me sentis soudain les jambes en coton.
« Vous me rappelez quelqu'un, »
murmura-t-il d'une voix douce. Venant de n'importe qui d'autre, cette réplique aurait eu le don de me refroidir. « Qui ?» demandai-je.
Une femme que j'ai connue il y a très longtemps.
Il se passa la main sur le front, comme s'il était soudain très las ou comme si la tête lui tournait. Comment s'appelait-elle ? Fanny. Il avait presque chuchoté ce nom. Je savais de qui il voulait parler. John Keats avait eu une fiancée nommée Fanny. Leur histoire d'amour avait été une succession de frustrations romantiques qui l'avait conduit presque au bord de la folie. Au moment de sa mort en Italie, seul à l'exception d'un compagnon de voyage, se sentant abandonné de ses amis et de sa bien-aimée, il avait demandé qu'un paquet de lettres non ouvertes et une boucle de la chevelure de Fanny soit déposée à côté de lui dans sa tombe. Je n'avais jamais entendu parler de John Keats avant la visite de Johnny. Mais j'avais eu le temps de me documenter depuis sur toutes ces conneries avec mon père Soc. « Vous ne voulez pas me dire ce que vous faites à la bibliothèque ?» insistai-je. Le cybride s'éclaircit la voix.
« Je cherche un poème, ou des fragments de l'original. »
« Un poème de Keats ?»«
Oui. »
« Ce ne serait pas plus facile d'interroger votre père Soc ?»«
Naturellement. Mais il est important pour moi de voir l'original. » De le toucher.
Je méditais quelques instants sur ce qu'il venait de dire. De quoi parle ce poème? Il sourit, ou du moins ses lèvres sourirent, tandis que ses yeux noisettes demeuraient pensifs.
Il s'appelle Hyperion. Il est difficile de vous expliquer de quoi il parle. D'échec artistique, je suppose. Keats ne l'a jamais achevé.
Je repoussai mon assiette pour tremper mes lèvres dans ma tasse de thé tiède.
« Vous dites que Keats ne l'a jamais achevé. Cela veut dire que vous ne l'avez jamais achevé. »
L'étonnement que je lus alors sur son visage n'était pas simulé, à moins que les IA ne soient des acteurs consommés, ce qu'ils étaient peut-être bien après tout.
« Mais, mon Dieu,
murmura-t-il,
comprenez que je ne suis pas John Keats. » Le fait que ma personnalité soit calquée sur un gabarit de récupération ne fait pas plus de moi John Keats que vous n'êtes un monstre parce que vous vous appelez Lamia. Il y a un million d'influences diverses qui me distinguent de ce pauvre génie mélancolique.
Vous avez pourtant dit que je vous rappelais Fanny.
L'écho d'un rêve, même pas. Il vous est déjà arrivé de prendre des stimulants mémoriels à base d'ARN, je suppose.
Quelquefois.
C'est un peu comme ça. Des souvenirs. Creux.
Un serveur humain nous apporta des biscuits horoscopes. « Cela vous intéresserait-il de visiter le vrai Hyperion ?» lui demandai-je.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Le monde des confins. Quelque part au-delà de Parvati, je crois. » Johnny avait l'air intrigué. Il venait de déchirer l'emballage de son biscuit, mais n'avait pas encore lu l'horoscope. « On l'a aussi appelé le monde des poètes, je crois, » poursuivis-je. Et il y a une ville qui porte votre nom, ou celui de Keats. Le jeune homme secoua la tête.
Je regrette, dit-il, mais je n'en ai jamais entendu parler.
Comment est-ce possible? Les IA ne savent donc pas tout? Il eut un rire bref et sec.
Celle à qui vous avez affaire est tout à fait ignare.
Il lut l'horoscope. Gardez-vous de vos impulsions. Je croisai les bras. Vous savez, à part votre tour de passe-passe avec la banque, je n'ai toujours pas de preuve que vous soyez ce que vous prétendez.
Donnez-moi la main, dit-il.
La main?
Oui, celle que vous voudrez. Là.
Il emprisonna ma main droite dans ses deux mains. Ses doigts étaient plus longs que les miens, mais moins musclés.
Fermez les yeux, me dit-il.
Je lui obéis. Sans transition, je me retrouvais nulle part, ou plutôt quelque part au milieu de l'infoplan gris-bleu, planant au-dessus des autoroutes d'information jaunes de chrome, survolant, contournant par en dessous ou traversant de grandes cités rutilantes abritant des banques de données monumentales, des gratte-ciels écarlates enrobés de cocons de sécurité de glace noire, des entités simples comme des comptes courants personnels ou des grands comptes illuminant la nuit tels des raffineries en train de brûler. Au-dessus de tout cela, hors de vue, comme en suspens dans un espace distordu, était la gigantesque masse des IA, dont les communications les plus simples pulsaient comme de violents éclairs de chaleur le long d'horizons infinis. Quelque part, au loin, presque perdu dans le dédale des néons tridimensionnels, délimitant une infime seconde d'arc dans l'incroyable infosphère d'un tout petit monde, je devinais plutôt que je distinguais deux yeux noisettes qui m'attendaient tranquillement. Johnny me lâcha la main. Puis il déchira l'emballage de mon biscuit et lut mon horoscope. Investissez sagement dans des entreprises nouvelles.
Doux Jésus,
chuchotai-je. Bébé m'avait déjà emmené faire un tour dans l'infosphère, mais sans dérivation, l'expérience n'avait été qu'une ombre sans consistance à côté de celle-ci. C'était la même différence qu'entre une photo en noir et blanc représentant un feu d'artifice et le feu d'artifice lui-même.
Comment faites-vous ça ? Lui demandai-je.
Pensez-vous faire avancer l'enquête demain ?
Demain ? Répliquai-je, recouvrant mon sang-froid. J'ai l'intention de résoudre cette affaire.